BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une marque agroalimentaire qui connaît un succès incroyable sans jamais avoir fait de pub. Il s'agit de C'est qui le patron ? Son fondateur Nicolas Chavannes sera notre invité. Simon Tenenbaum, qui signe l'édito de la semaine, reviendra sur les bons chiffres du marché publicitaire français en 2018. C'était le baromètre annuel de Kantar Media révélé cette semaine. Et puis, on s'intéressera au centenaire de Citroën, l'occasion de revenir sur 100 ans d'une communication atypique dont pour une marque dont la première publicité avait été lancée avant même que la première voiture ne soit construite. Arnaud Belloni, directeur marketing et communication de Citroën, et Bertie Toledano, présidente de BETC Paris, seront avec nous. HebdoCom, ça commence maintenant avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans l'actu cette semaine, le deuxième volet de la saga Intersport signé Marie Stone, saga qui montre que le sport, ça crée des liens.
Et oui, et cette fois l'agence a choisi de jouer sur le registre de l'humour. Au début, même plan que dans la campagne précédente, deux joggeurs arrêtés à un feu rouge. On se dit qu'on a déjà vu cette publicité. Sauf que cette fois, à la place de la jeune femme et du jogger, on a un ado et un quadragénaire qui portent les mêmes baskets. Et tous les jours, le scénario se répète. Le plus jeune pique un sprint, double le plus vieux, se moque de lui lorsqu'il s'essouffle, enchaîne les pitreries. Une petite compétition s'installe, mais le rapport de force s'inverse à la fin de la publicité quand l'ado en basket se présente devant le vigile d'une boîte de nuit, vigile qui n'est autre que son rival de course, et malgré ses baskets, il le laisse entrer parce que, comme le rappelle Intersport, le sport peut créer des rivalités mais il fait surtout naître de belles complicités.
Frédéric, c'est pas plutôt réussi pour un volet numéro 2 ?
Ouais, ça fait même de belles histoires. Moi, je trouve que ça présage d'une jolie saga. Le premier film était sympa mais un peu classique, on va dire. Je trouve que là, il commence à se passer quelque chose. On attend le troisième, quoi.
Absolument. Encore une grosse amende cette semaine pour Google en Europe.
Une sanction de 1,5 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité sur Internet. La Commission européenne estime que Google a eu un comportement anticoncurrentiel pendant plus de 10 ans sur ce marché. Il a imposé des clauses restrictives aux sites Internet qui utilisent sa régie publicitaire Google AdSense. Ses concurrents comme Microsoft ou Yahoo n'avaient pas la possibilité de vendre des espaces sur les pages de résultats de l'outil de recherche de Google, des pratiques que Google a stoppées en 2016.
Une Audi R8 qui sème la zizanie sur son passage.
Et c'est un très joli film de l'agence BBH. Alors ça démarre tranquillement, on est dans la voiture d'une famille qui se fait brutalement doubler par un taxi, taxi qui se fait lui-même doubler par un camion, qui se fait doubler par une voiture de mariée, qui elle-même se fait doubler par une voiture de police. Alors tout ça, ça crée évidemment un embouteillage monstre. Tout ça, pourquoi ? Parce que les conducteurs veulent suivre au plus près la nouvelle Audi R8. L'Audi R8, une voiture qu'on a plaisir à suivre, nous dit la marque.
Voiture toujours, mais dans un registre alors là complètement différent, cette campagne très surprenante signée Rosa Parks pour Skoda.
Alors, quand on regarde cette campagne, hein, absolument rien ne laisse penser que c'est une publicité pour Skoda. Pas une voiture à l'horizon. À la place, un énorme chien qui s'appelle Doug, un chien immense, plus gros qu'une vache par exemple. Alors, quand son propriétaire se balade avec Doug dans la rue, forcément, ça attire le regard. Alors, un cycliste qui tourne la tête se prend des poubelles en pleine figure. Quand Doug s'assoit sur le canapé, eh bien le canapé il craque. Quand Doug creuse un trou dans le jardin, eh bien c'est tout le jardin dans la totalité qui est attaqué. Bref, beaucoup d'humour et ce message à la fin de la publicité. Un chien d'une tonne, ça fait des dégâts. Alors imaginez dans une voiture à 50 km/h. Ce que veut montrer Skoda, c'est qu'en cas d'accident, un chien peut devenir un projectile d'une tonne. C'est pourquoi le constructeur a conçu une ceinture de sécurité pour les chiens. Et ça, pour le coup, c'est très sérieux.
C'est vraiment sérieux, Fred.
Ouais, on a vérifié, parce que c'est vrai, quand on avait reçu le film, on a eu un petit doute et on a appelé, et oui, ça existe.
Bon, c'est pour le moins original comme façon de communiquer. Merci beaucoup, Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Nous sommes avec Nicolas Chavannes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron ? Vous avez lancé cette marque il y a 2 ans, de zéro. Vous avez commencé par le lait. Vous avez des chiffres de vente qui sont juste impressionnants. 102 millions de litres de lait vendus, 120 millions de produits équitables, 15% des foyers français qui achètent aujourd'hui vos produits. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès aussi rapide sans pub?
Ouais, sans pub et sans commerciaux dans les magasins.
En plus.
Vraiment, la réponse, on l'avait pas. Hein. On était si petits et de simples consommateurs. Il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas eu d'investisseurs. La réalité, c'est que tout le monde a fait sa part, comme le petit colibri de Pierre Rabhi, c'est-à-dire que des consommateurs ont compris que c'était leur marque, on est rassemblés en coopérative, et quand vous avez partout en France des gens qui vont voir des magasins, sollicitent un directeur, demandent à ce que le lait soit un peu moins haut, eh bien ces clients ont une voix qui porte plus, évidemment, que des commerciaux. Donc voilà, ça s'est fait naturellement, et ça a donné un succès qui, évidemment, aide beaucoup de producteurs aujourd'hui.
Alors vous arrivez vous prenez une place de plus en plus visible sur les linéaires, dans les points de vente. Comment est-ce que les autres, ceux qui sont installés depuis longtemps, vous voient, vous accueillent? Quels sont vos rapports avec les marques?
Ben on aimerait vous dire qu'il y a beaucoup de problèmes, mais en fait il y en a pas, parce que je crois que ces concurrents, si on veut les appeler comme ça, se rendent compte que c'est une vraie marque de consommateur. C'est important de dire ça, c'est-à-dire qu'on peut devenir sociétaire pour 1 euro, participer à évidemment l'élaboration des produits, les tendances, les décisions stratégiques. Et il y a une bienveillance. Alors pour ceux qui auraient été un peu moins heureux, peut-être que une marque portée par les mêmes consommateurs qui achètent leurs produits est finalement un peu préservée. Mais je dirais que l'équilibre de ces deux choses a fait qu'on n'a pas eu de soucis avec d'autres marques, puisque d'ailleurs maintenant elles viennent nous voir, les fabricants, en disant, vous avez su construire des produits, pourquoi vous consommateurs, vous ne construiriez pas nos produits? Voilà, donc il y a finalement une bienveillance autour de l'initiative.
C'est-à-dire que vos sociétaires aujourd'hui pourraient être amenés demain à fabriquer des produits pour d'autres marques?
Alors pas les fabriquer, mais quand c'est qu'il patron a pris cette ampleur avec ce succès collectif porté par les consommateurs, les fabricants, les petites PME, mais aussi les grands groupes, nous ont dit la pub ne marche plus comme avant. Donc je me fais porte-parole de ce qu'ont dit ces grands patrons. Quand on fait une pub, qu'on est un grand groupe et qu'on dit on va sauver le monde et sauver vos enfants, il y a une sensation un peu d'agacement, alors qu'à une époque c'était pas la même chose. Donc il faut qu'on soit crédible quand on fait passer une information. Le fait que nous, marques, on donne une information, ça disqualifie pour partie l'information qu'on veut donner. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir dans les coulisses de nos fabrications de produits, constatées par vous-même, et qu'on puisse retrouver un peu le même schéma du succès? Alors, les consommateurs que je représente humblement ont dit attention, notamment aux grands groupes. Mmh. On veut pas être caution, nous, de grands groupes qui feraient un peu de greenwashing, mais s'ouvrir à la découverte des coulisses de notre alimentation, reprendre en main le volant, pas simplement sur 20-30 produits, mais sur peut-être l'ensemble du monde agroalimentaire, il y a un bel enjeu. C'est pour ça que la chaîne des consos et les citoyens arrivent et qu'une structure va permettre ça dans les prochains
mois. On va en reparler. Vous avez combien de sociétaires?
Alors, il y a 8500 sociétaires ultra actifs dans la coopérative, et on a appris qu'il y avait 8 millions d'acheteurs, et des acheteurs qui ont une autre relation au produit que la relation habituelle de je pousse mon produit, mon caddie, et je mets le produit en rayon. Là, ce sont ces consommateurs extraordinaires, on leur passe toujours un petit bonjour parce que ils l'ont fait même sans nous, qui sont allés dans les magasins demander l'arrivée des produits. Il y a une application qui permet de demander l'arrivée des produits. 40 000 lettres ont été envoyées au directeur. 40 000.
Donc les distributeurs, et oui, justement, les directeurs de super, d'hypermarché, etc., ils sont pas réputés être les gens les plus ouverts, on va dire, de la terre, poliment. Ils vous accueillent comment?
Ils nous accueillent vraiment, pour pas dire autrement, à bras ouverts. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est pas nous, créateurs d'entreprises, qui allons les voir. C'est bien leurs propres clients, des clients qui viennent depuis des années dans ce magasin et qui disent, écoutez, j'ai participé à la création de produits, ils sont équitables, ils soutiennent les producteurs, je suis client depuis 20 ans, mettez ces produits en rayon. Cette voie, évidemment, elle a permis de faire avancer l'histoire plus vite que si nous on l'avait demandé.
Vous êtes plus cher pour mieux rémunérer les producteurs? Plus cher de combien?
Alors, il y a le lait, c'est une très bonne question, 4 euros de plus par an. Voilà ce que coûtent aujourd'hui les achats de lait, si on veut que le producteur à l'autre bout retrouve le sourire. On a discuté de l'huile de colza, c'est incroyable. Si on veut que les producteurs d'huile de colza qui souffrent gagnent leur vie, c'est 1,20 € par an. Et donc, il faut redimensionner ce qu'est l'acte d'achat équitable. Ça coûte pas des millions. Et puis, vous avez d'autres produits qui, comme la compote de pommes, alors on est très étonné, équitable, qualitative, sans sucre ajouté, eh bien, elle est moins chère que les grandes marques. Donc, c'est pas toujours plus cher, c'est au juste prix.
Et ça aujourd'hui, sans voix.
Un peu, oui. Aujourd'hui, combien de produits et combien il peut y en avoir à terme?
Alors, il y en a 20 aujourd'hui, en 2 ans, ce qui est assez étonnant. Mais le choix fait, puisque les décisions sont collectives, on ne prend que des décisions en consultant tout le monde, c'est pas de faire 500 produits. On veut pas créer un nouveau Coca-Cola, retrouver des schémas dont on veut sortir. On veut que des produits équitables existent et puissent rayonner sur d'autres produits, d'autres fabricants. C'est comme ça qu'apparaissent là des produits sous la marque habituelle qu'on connaît, mais les cahiers des charges ont été réinvestis, retravaillés, co-construits et vérifiés par les consommateurs eux-mêmes. Voilà la tendance qui va permettre évidemment de généraliser horizontalement ce principe qui s'incarne dans ces produits.
Et cette appli que vous allez lancer là mi-avril, ça va aussi dans ce...
Ouais, alors c'est la nouveauté, c'est qu'il y a, puisque les produits sont co-créés et vérifiés par les consommateurs, il y a des visites qui sont faites chez les fabricants pour regarder si les producteurs gagnent bien leur vie. On leur demande les yeux dans les yeux. Mmh. Et si la qualité est au rendez-vous. Ce principe-là, ça devient une chaîne de télé, la chaîne des consommateurs et des citoyens, et une structure d'accompagnement, comme une espèce d'agence un peu qui dit pas son nom, où les marques vont pouvoir ouvrir en tant que fabricants leurs coulisses, comme pensez que les patrons des consommateurs vont pouvoir aller regarder. Et en fonction de ce qu'on y trouvera, on votera ou pas le fait de signaler aux autres qu'un produit a du sens ou pas.
Oui, vous voyez, donc c'est une tendance. Elle joue vraiment le jeu parce que les marques, les grandes marques agroalimentaires, elles vous montrent un peu ce qu'elles veulent.
Eh bien, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. On l'a vu récemment. Les grandes marques, même si tout le monde est à le pied sur le frein pour les grands groupes, côté consommateur, ils ont même plutôt pas envie de le faire. Les 4 grands groupes laitiers nous ont appelés en disant: on peut plus faire autrement. On ouvre toutes nos coulisses. Vos confrères de France 2 étaient très étonnés de voir Nestlé face caméra dire concrètement on doit passer par autre chose que de la pub et des forces de vente. Donc la prise de conscience, elle est totale. C'est une sublime chance pour nous consommateurs de reprendre le volant. Il faut le faire sans faire de la caution greenwashing, ce qu'on fera jamais. Mais les marques ont changé. Elles savent que, et les grands groupes aussi, si on repasse pas par des prescripteurs directs comme les consommateurs, la pub ne suffira pas à écrire des destins à l'avenir.
Le risque juste à terme, c'est que comme ça a beaucoup de succès, comme il y a beaucoup de consommateurs, plus il y a de gens, plus les débats risquent d'être complexes, non? Comment la démocratie interne
pour l'instant, c'est une très bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas de panel. Hein. On a fait avec nos petits moyens des consultations avec de plus en plus de monde. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un socle extraordinaire qui simplifiait tout. Le bon sens collectif, le fait qu'on a quand même envie de choses simples, que notre argent serve à des choses utiles, la prise de conscience de où va mon argent. Quand j'achète un produit, même si il est très sympathique, est-ce qu'à l'autre bout, l'entreprise fait aussi des efforts? Donc il y a une reprise en main des consommateurs, on l'a vu ici. Et cette structure qui s'appelle l'atelier des consos, avec la chaîne des consos, c'est le moment où l'ensemble du marché va pouvoir faire appel à ses consommateurs pour reconsidérer des cahiers des charges, leur approche. Tout le monde est très bienveillant, mais très vigilant. Voilà. Ouais.
Merci Nicolas Chavanne. Je rappelle que vous êtes le fondateur de C'est qui le patron ?
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors le baromètre annuel de Kantar, Média, l'IREP et France Pub a montré une accélération des investissements et des recettes publicitaires l'an dernier. Simon, on a vu clairement un effet Coupe du Monde et évidemment la forte croissance du digital qui a aussi pesé.
Oui, ça va surprendre personne, mais le digital est plus que jamais, en tout cas, le moteur du marché de la pub. On parle en France. Hein, en 2018, les recettes publicitaires ont bondi de plus de 4%. C'est vraiment très solide. On est même presque à 6% de croissance si on enlève du périmètre les annuaires et les prospectus. Alors, voilà, là, cette croissance, elle vient d'abord, avant tout, d'Internet, Google, Facebook, avec ce chiffre de 17% de croissance des recettes de la pub en ligne en 2018, ce qui est un record. Si on enlève Internet, le reste des médias historiques sont tout juste à l'équilibre, zéro croissance. Mais ce que nous apprend ce baromètre, c'est que les médias qui se digitalisent, les médias historiques qui se digitalisent, tirent leur épingle du jeu. En fait, pour la première fois, cette étude de référence a intégré la contribution du digital dans la croissance des médias historiques. C'est très important. Les sites des journaux, le replay de la télévision, la radio numérique, tout ça, ça a été intégré dans le média historique. Et donc, ça profite en particulier à la télévision, qui a affiche une croissance de 2,4% de ses recettes nettes, en y intégrant donc le replay et la pub sur des plateformes comme MyTF1 ou Sisplay. La seule partie digitale de la télévision grimpe ainsi de plus de 14%. On voit la même chose avec l'affichage, qui progresse au global de plus de 2%, mais boosté là aussi par les écrans numériques, qui eux progressent de plus de 20%. Tous les autres médias stagnent ou reculent, mais on voit par exemple que la presse baisse un peu moins vite que les années précédentes, hein, moins 5%, grâce à l'effet positif de ces recettes numériques.
Les dépenses des annonceurs ont elles-mêmes été bien orientées.
Oui, c'est logique évidemment, plus 2,3% de croissance côté investissement des annonceurs, c'est un périmètre plus large qui prend aussi en compte les dépenses marketing, les salons, la promotion, etc. Le marché de la communication a pesé 33 milliards d'euros en 2018, on retrouve en fait le niveau de 2007, le niveau d'avant-crise. Il a fallu plus de 10 ans pour retrouver le niveau de 2007. Alors, la croissance, elle n'a pas été linéaire au cours de l'année 2018, une année un peu particulière, effectivement, avec, on commence l'année assez tranquillement, et puis il y a la Coupe du Monde, forte accélération des investissements, surtout sur les marques automobiles, par exemple, les anciennes spécialisées dans le sport, c'est logique. On a aussi la mode, le bricolage, qui font partie des secteurs qui ont plus investi en communication. Et puis, deuxième partie de l'année, franchement, moins bonne, surtout la fin de l'année avec l'effet des gilets jaunes, et ce chiffre baisse de près de 5% des dépenses de communication au mois de décembre par rapport à la moyenne des mois précédents. C'est important. Alors le climat d'incertitude y pèse encore selon ce baromètre en ce début d'année 2019, mais c'est pas une année qu'il va falloir enterrer trop vite d'après les auteurs de ce baromètre. Il y a des raisons d'espérer, mesures sur le pouvoir d'achat qui va avoir un effet sur la consommation, et toujours l'effet moteur du digital qui emporte tout sur son passage. Et en l'absence d'événements sportifs majeurs en 2019, la croissance du secteur ne devrait ainsi que légèrement ralentir.
Simon Tenenbaum, merci.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Tiens, et aujourd'hui, Frédéric, on va fêter un anniversaire.
Oui.
On va fêter les 100 ans. Oui, beaucoup plus vieux que le vôtre, Frédéric, enfin. Les 100 ans d'une marque d'automobile française, c'est Citroën, et on en parle avec Arnaud Belloni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing et communication de Citroën, et Bertie Toledano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de BTC Paris et Traction. André Citroën avait lancé sa première campagne publicitaire avant même que sa voiture ne soit construite. Est-ce que cet amour de la réclame, du marketing, ça existe encore 100 ans après chez Citroën, Arnaud Belloni?
Ah bah, l'héritage est pesant. Non, André Citroën, c'était un visionnaire de l'automobile, mais aussi du marketing. C'est un des tout premiers à avoir créé l'entertainment d'aujourd'hui en faisant les différentes croisières. Il a mis le nom Citroën pendant 11 ans sur la Tour Eiffel. Vous imaginez aujourd'hui faire ça, c'est compliqué. Il avait fait tracer dans le ciel de Paris pour l'ouverture du mondial de l'automobile 1922. À l'époque, ça s'appelait le Salon de l'automobile. Oui. Le nom Citroën par un avion. Voilà. Et après, il y a quand même eu Jacques Séguéla. Donc,
dit-il en bon regardant.
Quand vous prenez le job un jour, vous avez un peu la pression.
Frédéric.
Cela dit, vous, donc Bertie Toledano, vous êtes à la tête de l'agence Traction qui a été créée en quelque sorte pour
Citroën.
Pour Citroën.
Bien sûr.
Donc c'est déjà un signe, mais ça vous oblige ça considérablement ce passé. Comment est-ce que vous faites la transition entre les deux?
Entre Jacques Séguéla et...
Et même encore avant. C'est 100 ans de publicité, en fait, quand même, très brillante.
C'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Parce qu'en fait, des marques iconiques qui appartiennent à la pop culture dans l'univers de l'automobile, il y en a pas tant que ça. Des marques où quand vous dites une deux chevaux, vous parlez à tout le monde et que dans le monde entier, quand vous allez voir, vous allez trouver des Coréens qui sont fans de la deux chevaux, vous allez trouver des étudiants du monde entier qui ont fait des voyages et des périples en deux chevaux. Vous parlez de la Mehari, tout d'un coup, hop, vous avez tout le monde qui parle à un dîner, vous dites, vous lancez Mehari, et puis tout d'un coup, vous avez cinq personnes qui se dressent pour vous dire, ah non, mais moi, mes vacances d'enfance, c'était comme ça et mes trucs. En fait, la marque, elle existe si elle fait partie de la vie des gens. C'est une des rares marques qui fait partie de la vie des gens. Donc, quand vous avez ça comme matériau, j'ai envie de vous dire, puisque nous, on travaille sur un matériau, pour ça, il nous faut un produit, une marque, une histoire, un récit. Tout d'un coup, vous avez quelque chose à dire. Donc, c'est une chance inouïe. C'est un truc formidable. Après, vous êtes sommé d'essayer de réussir le moins mal possible, mais c'est plutôt chouette quand même.
Arnaud Belloni, elle a bien réussi son contrat. Bertie Toledano, là pour les 100 ans, le dispositif, il vous convient?
Ah ouais, on a fait quelque chose d'assez rare. En fait, on a travaillé un an avant sur une série de 9 films, tous. Qui rendent tous un peu hommage à cet esprit de la marque inspirée par les gens, la vie des gens, la vie automobile des gens, d'où le slogan de la marque Inspired by You en anglais, inspiré par vous en français. Mm-hmm. Et on a effectivement, on a revu tout l'écosystème de création, puisqu'on a fait un film de marque, on a refait les films gamme sur nos SUV, on a refait nos films berline, on a fait plusieurs films sur la petite C3, et on a travaillé donc très en amont pour ce lancement, pour être prêt dès le 1er janvier. Et c'est ce que vous voyez en ce moment sur les écrans de BFM TV, BFM Business.
Et je crois que là où il faut, parce qu'il le dira pas sur lui, mais Arnaud, il a fait un truc dès le départ, c'est que font pas assez souvent les directeurs marketing, je peux le dire parce que je vois beaucoup, c'est le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que en fait. Mais vous le voyez en France aujourd'hui dans les rues, hein. Les gens, il faut assumer son passé, vivre son présent et se projeter dans le futur. Mais pour faire ça, faut avoir un passé, il faut accepter son passé, il faut vivre avec ce truc-là et être capable de faire un lien entre tout ça. Souvent, les gens, ils arrivent, ils veulent faire table rase, alors ils oublient qu'ils sont héritiers d'une histoire qui a un morceau de transmission à faire. Et donc, ce qui est formidable là dans les trucs des 100 ans, c'est que ça va des jouets à la maison Citroën, à l'objet magasin, entre si on peut parler d'un magasin, oui, mais ça va aussi du réparateur, de la façon dont on met en scène l'atelier Citroën, ça va de... Et c'est tout ça qui a été embrassé. Et quand vous refaites tout ça en même temps, la bonne nouvelle, c'est que les gens, ils s'en aperçoivent. Et qu'ils ont... Enfin, ils font le lien entre le produit d'aujourd'hui, le produit du passé. Donc, la deux chevaux et Amy Wan. Il fallait aller de la deux chevaux à Amy Wan.
Oui, alors c'est quoi justement Amy Wan?
C'est
la Citroën du futur, vraiment?
C'est un objet de mobilité urbain. Il y a une étude de l'ONU qui dit que à peu près à horizon 2030 2040 70% de la population mondiale habitera dans les grandes villes. Ce qui est effrayant en soi, mais qui pousse les constructeurs à réfléchir sur ce que sera la mobilité urbaine. En l'occurrence, Amy Wan, c'est un concept, c'est un véhicule qui est 100% électrique. Jusque-là, c'est moderne, mais c'est pas original. Ce qui est complètement original, c'est qu'il soit disponible sans permis de conduire. C'est ça qui est original, parce que on peut conduire ce véhicule potentiellement, cet objet, à 16 ans dans le reste de l'Europe, 14 ans en France. Un des grands freins à la mobilité, c'est le prix du permis de conduire. Hein. C'est environ 1 800 €. Quand ça se passe mal, c'est même plus cher que ça. Ouais. Ensuite, quand vous avez réussi à l'avoir, il faut acheter un véhicule. Quand vous l'avez, là, il n'y aura pas besoin de l'acheter. Il suffira juste de louer ou de l'utiliser en car sharing. Ensuite, quand vous avez un véhicule, en général, vous pouvez pas le garer. Comme il sera en car sharing, vous n'aurez pas besoin de le garer.
Donc ça va vraiment arriver.
On travaille très sérieusement dessus.
Frédéric.
Mais justement, alors ça, c'est un concept. Vous fêtez vos 100 ans entre le passé et le futur. Aujourd'hui, est-ce que le fait que Citroën ne soit pas spécialement en avance sur l'électrique en particulier est un handicap? Et comment est-ce que vous... La com.
C'est une bonne question, ça.
Merci.
C'est une bonne question parce qu'on croit toujours qu'il faut être le premier pour réussir. Bah non. Je crois pas. Vous pouvez aussi travailler dur, ne pas communiquer tout de suite. Vous pouvez préparer ne pas communiquer tout de suite. Vous pouvez aussi observer les premiers pas des autres et faire mieux après. C'est pas. Et puis en plus, dans ce domaine, il y a eu énormément d'effets d'annonce qui sont pas encore des réalités. Donc nous, on travaille, on prépare la mutation de la marque vers les nouvelles énergies. En l'occurrence, ça va être le plug-in hybride, hein, qui est un mélange d'électrique et d'essence. Je vulgarise. Et le tout électrique, un véhicule comme ça, ça pourrait être tout électrique et ça pourrait venir plus vite que prévu. Voilà.
Et puis moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, ce qui est arrivé quand même au marché de l'automobile, c'est tout d'un coup le monde entier se retourne vers eux et disent vous faites quoi en fait? On oublie tous qu'on est partie prenante de cette histoire, hein. On achète tous des automobiles quand même, on se balade tous et tout. Donc en fait, Emmy One, c'est une réponse à tout ça, c'est-à-dire que en fait, c'est non seulement un véhicule, mais c'est aussi un service. Et en fait, ce qu'on apprend de la mobilité du futur, c'est que probablement ce sont des objets de mobilité. Des objets de mobilité électrique, peut-être, des objets de mobilité hybride, sûrement, dans certaines, peut-être des objets de mobilité autonome, parce que ça aussi, là-dessus aussi, vous avez un proto. Hein, et donc, l'idée, c'est que tout ça va être mis en œuvre par quoi? Par des services. En fait, le digital va permettre aux gens de réserver des choses, de, donc en fait, c'est un système qu'on est en train de découvrir, qu'on co-construit ensemble, quand même, et auquel on participe ensemble. Donc, ce que je trouve chouette, c'est qu'ils sont au cœur finalement d'un des enjeux qui est probablement un des enjeux les plus incroyables de notre siècle, qui est cette mobilité de troisième génération. Ce sera la même révolution que celle qu'a connue l'automobile au moment à l'après Far West, parce que j'ai coutume de juste dire l'après Far West. Mais du coup, dans ce système là, il y a une place pour une marque populaire. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, y compris sur les ronds-points, c'est que les gens, le fait d'être populaire et d'assumer le fait d'être populaire, c'est-à-dire d'être accessible, de parler aux gens, de regarder leur comportement, d'embrasser leurs désirs et leurs exigences, je trouve qu'il y a une grande marque française comme ça.
Merci beaucoup Bertie Toledano. Je rappelle que vous êtes la présidente de BETC Paris et de Traction. Arnaud Belloni, directeur marketing et communication de Citroën. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.